Radio Starbucks.
Morning edition from NPR News.
Santin de la House.
Radio News and the People.
Lo que se reproduce esto en la radio.
France Inter, le 18-20.
La première escale sonore d'un jour dans le monde nous emmène à Doha, au Qatar, où est installée la chaîne Al Jazeera. La puissante Arabie Saoudite voisine demande la fermeture de la chaîne pour lever l'embargo diplomatique et économique qui pèse sur le Qatar. Et c'est Christian Cheneau qui nous explique tout ça. 18h40, l'actualité en série, le Brexit saison 2, où comment Theresa May, qui a déjà beaucoup d'autres problèmes, est obligée de passer derrière les bourdes de son chef de la diplomatie, Boris Johnson. Nous sommes aussi ce soir au nord de la Somalie, en Turquie, avec l'actu média d'Alexandre. 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger au Québec qui commence à s'interroger sur les 300 000 migrants qui préfèrent quitter l'Amérique de Trump, mais ça commence à faire du monde de l'autre côté de la frontière. Et tout de suite, en ce 13 novembre, on parle de territoire, celui de Daesh. L'État islamique sans État reste un État en guerre et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure, c'est parti.
Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde.
Vos frères combattants, Dieu leur a donné la victoire après de longues années de djihad et de patience pour qu'ils atteignent cet objectif, qu'ils annoncent le califat et qu'ils y installent un calife.
On est le 5 juillet 2014 et c'est Abou Bakr al-Baghdadi qui guide la prière depuis la chaire de la mosquée de Mossoul. La mosquée al-Nouri, le rétablissement du califat a été proclamé peu de temps avant et c'est important de se remémorer les chronologies. En fait, puisque le 13 novembre 2015, on sait évidemment très bien ce qu'est Al-Qaïda, ce qu'est l'État islamique. On a entendu ces scènes-là. À l'époque, on voit le territoire grandir, les zones contrôlées, les zones de soutien n'en finissent pas de couvrir l'Irak et la Syrie. Raqqa est bel et bien la capitale de l'État islamique. Palmyre est toujours occupée. Mossoul est sous le joug des islamistes. Les drapeaux noirs ne sont pas loin d'Alep. On parle très peu, voire pas du tout de recul encore. On y viendra. Et nous y sommes. Daesh a bel et bien perdu son territoire qui globalement était gros comme, j'ai envie de dire, le Portugal. Et en tout cas perdu ses territoires de Syrie et d'Irak. La dernière grosse ville tombée, c'était Deir-ez-Zor. Et voilà où nous en sommes. Bonsoir Pierre Servent.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste des questions de défense et de stratégie. Bonsoir Abdelhassem El-Difraoui. Vous êtes politologue, spécialiste de l'islam et du djihadisme. On a déjà beaucoup dit, Pierre Servent, que Daesh sans territoire restait Daesh. Cette distinction, évidemment, on la connaît aujourd'hui. Malgré tout, en perdant son territoire, est-ce que au moins on peut dire qu'on a perdu pour Daesh en opérationnel, en financier, et que ça compte quand même ?
Ah oui, moi je pense que c'est pas parce que Daesh n'a pas disparu, parce qu'il y a des antennes Daesh, petites, moyennes ou grandes, dans une dizaine de pays dans le monde. Il faut rappeler qu'à la période de sa splendeur, entre guillemets, il y avait les services de renseignement estimés entre 80 et 90 pays représenté, alors parfois par quelques unités, mais d'autres avec un nombre plus important, la Belgique arrivait en tête au prorata de sa population, la Tunisie pour le Maghreb. Donc c'était quand même une internationale du crime avec ce califat qui était extrêmement attractif et qui donnait le sentiment de la toute-puissance et même de l'invincibilité. Mmh. C'est pour ça que à l'époque, assez souvent dans des émissions, je terminais en disant « Daesh sera vaincu ». Alors on me disait « Ah, bah heureusement que vous mettez un peu d'espoir parce qu'on a le sentiment d'une espèce de pieuvre qui se développe sans possibilité de s'arrêter. Vous avez raison de faire un petit côté rétro, parce que comme l'actualité va très très vite, on oublie de dire qu'il y a eu aussi tout au long de ces années énormément de polémiques, de controverses sur comment faire pour battre Daesh en Syrie et en Irak, sachant que la situation n'était pas pareille dans un pays ou dans l'autre. Et on a beaucoup contesté, enfin les observateurs, des journalistes, etc., ont contesté l'option qui avait été prise notamment par les Occidentaux de ne pas mettre de troupes au sol. Ça avait fait débat. Et la position des Occidentaux, Américains, Français, Britanniques et autres, c'était de dire non, si on commence à mettre des troupes au sol, on va recommencer l'erreur américaine de 2003. Et donc finalement, la tactique militaire adoptée, c'est-à-dire des frappes aériennes, des forces spéciales, du renseignement, casser tout l'outil du califat, l'outil militaire et psychologique, et avec des troupes locales de reconquête, c'est ce dispositif qui a marché, avec beaucoup de pertes aussi civiles, il faut le rappeler.
Abdelhassem El-Difraoui, ce qui a été cassé, c'est la terre, en fait, puisque la terre était un objectif pour l'État islamique. C'était un objectif, mais finalement pas indispensable quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, ou pas ?
La terre est quelque chose de très important, mais j'ai deux petites remarques. Là, il ne faut pas crier victoire, de toute façon. Et on a tendance à se focaliser là, sur Daesh. Daesh a commencé à focaliser à l'époque sur Ben Laden, donc on a bien tué Ben Laden, le pseudo-califat il est détruit, mais Daesh s'inscrit dans une mouvance qui est beaucoup plus large, donc c'est le djihadisme, et là on a plein d'autres groupuscules qu'on ne regarde pas assez, on ne regarde pas le désastre au Yémen, on ne regarde pas assez Boko Haram, on ne regarde pas qu'est-ce que se passe au Sahel avec de différents groupes rivaux. Et deuxièmement, contrairement à Al-Qaïda qui voulait toujours avoir mené une forme de djihad non territorialisé. L'appareil de propagande de tout ce groupuscule est encore là, dans le virtuel. Là aussi, l'appareil de propagande est
toujours aussi performant qu'elle a été.
Moins performant, mais assez dangereux et prêt à se reconstituer ailleurs. C'est clair, quand vous n'avez plus, entre guillemets, un ministère de la propagande djihadiste, à Raqqa ou quelque chose comme ça, avec des cellules de production, même la propagande est affaiblie, mais elle est présente sur le net.
Mais je vais même le dire comme ça, monsieur Al-Difraoui, est-ce qu'ils ont encore besoin d'une propagande finalement, puisque la notoriété elle est là, donc est-ce qu'on a vraiment encore besoin de...
Ils ont besoin de la propagande, ils ont besoin de rappeler qu'elle existe. Ces attentats de soi-disant loups solitaires, un terme qu'on utilise heureusement de moins en moins, improvisés, low cost, sont là aussi pour la propagande, ou principalement là pour la propagande, ils sont relayés et tout ça. Et il y a toujours cette rivalité entre ces différents groupes djihadistes. Par exemple, là, on a mis avant le fils de Ben Laden, Hamza, comme successeur de Ben Laden, pour notamment concurrencer la propagande de Daesh. Donc, on est loin d'être sorti de l'auberge au niveau du combat contre le djihadisme.
Alors justement, Pierre Savant, est-ce qu'on a le sentiment aujourd'hui qu'il y a quoi, des vases communicants entre Al-Qaïda et Daesh? On sait bien qu'il y a un certain nombre de combattants qui étaient plutôt Al-Qaïda, qui sont partis pour aller rejoindre Daesh. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en fait avec ces deux groupes? Est-ce qu'ils se parlent ou pas du tout? Est-ce qu'ils mettent en commun un certain nombre de gens ou de moyens?
Non, je ne pense pas qu'ils se... Enfin, ils se parlent, il y a peut-être des contacts. Mais c'est vrai que Al-Qaïda a été pompé. Une partie des combattants d'Al-Qaïda en Syrie, en Irak, surtout en Syrie, ont été absorbés. Vous avez eu des combats très féroces entre les entités rattachées à Al-Qaïda et les entités rattachées à Daesh. Une partie des djihadistes français qui sont morts là-bas, certains sont morts parce qu'ils étaient chez Al-Qaïda, sous une autre marque, Al-Nosra, et qu'ils ont été tués par Daesh. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit précédemment. On n'en a pas fini. Il y a un phénomène, comment dirais-je, de vase communicant. Il y a un phénomène qui n'est pas tari parce que la poussée djihado-terroriste au sens large, elle est puissante. Elle s'arc-boute sur 30 à 40 ans de wahhabisme qui a été diffusé et dont la pointe la plus aiguë va vers le djihadisme. Et un dernier point sur Daesh, la disparition du califat, c'est très important, il faut le souligner, mais ça reste un groupe qui a des capacités de rebond par différentes façons. On l'a vu récemment, où finalement, sur certaines villes, on le disait complètement battu, il y a une certaine capacité de reprise en main.
La nature a horreur du vide. Hein, en cas de déstructuration, on en est là en Syrie ou en Irak, le retour pourrait être immédiat. Non,
voilà, et puis surtout, il y a ce que les militaires appellent l'effet mercure, la boule de mercure, quand elle... enfin, vous avez peut-être cassé un thermomètre. Donc la boule centrale de mercure se disperse. Vous pouvez détruire une partie de la boule, mais elle a tendance à s'éclater. Et là aussi, Daesh va sans doute muter vers ce qu'Al-Qaïda a fait, notamment en Irak, c'est-à-dire des actions kamikazes, du terrorisme. Et on l'a vu même ces derniers mois, alors que le califat était vraiment en passe d'être complètement détruit en Irak, où vous avez eu des opérations sous déguisement de milices chiites, etc., vers des zones très excentrées par rapport au lambeau du califat. Donc même sur la zone Irak-Syrie, la capacité de frappe, de revenir, d'essayer de nourrir l'action psychologique, l'importance de la présence sur les médias, c'est aussi de donner une caisse de résonance à telle attaque qui va frapper parce que ça va se passer lors d'un anniversaire où ça va toucher une cible symboliquement importante.
Abdelhassim Al-Difraoui, est-ce que ça veut dire qu'une sorte de djihad global s'efface au profit de multiples djihads locaux, en fait, qu'on va chercher en Indonésie, qu'on va chercher dans le Sinaï, qu'on va chercher au Nigeria, qu'on va chercher dans tous ces coins-là?
De toute façon, le djihad, il est glocal. Donc, elle mélange sa globalité, glocale, elle mélange donc les aspects globaux sur des griefs locaux. Mais à l'âge de l'Internet, malheureusement, tous ces mouvances peuvent se reconstituer à un niveau global. Et Mais ce qui me semble très important, on répète ça malheureusement souvent, mais je vais encore le répéter. Oui. La lutte contre le djihadisme, elle est tellement complexe, elle doit être menée sur plusieurs fronts. Si on remédie pas à la discrimination socio-économique des sunnites en Irak, si on trouve pas une solution pour cette conflit horrible en Syrie, cette guerre civile, si on fait rien contre la discrimination des bédouins au nord de Sinaï, si on lutte pas contre le djihadisme idéologiquement, si on commence pas à faire une campagne, un vrai plan Marshall pour nos voisins du sud de la Méditerranée, là, ça va perdurer et perdurer et perdurer. Le djihadisme a des causes multiples. Malheureusement aussi, des griefs complètement justifiés de certaines populations discriminées. Et si on fait rien, là, on va avoir une résurgence parce qu'ils ont créé cette dangereux corpus idéologique avec leurs mensonges sur je vais avoir un billet VIP pour le paradis si je m'explose quelque part ou si je tue une jeune étudiante à Marseille avec un couteau. Donc il faut vraiment, c'est une lutte de longue haleine où il faut mettre tous nos moyens et il faudrait aussi vraiment mener un débat public en France et en Europe comment combattre cette hydre si dangereuse.
Alors il existe ce débat à plusieurs niveaux quand même, Pierre Servandon, vous croyez pas qu'il existe ce débat, y compris chez nous comment combattre ça, même si on n'a pas forcément la réponse au bout du bout
Alors le débat a beaucoup progressé. Déjà le premier élément, c'est que l'option militaire et sécuritaire est très importante, mais elle résout pas le problème de fond. Et que par rapport aux problèmes de fond qui ont été évoqués, on en a pour 50 ans. Je le dis pour dire que nous sommes dans des mouvements de fond et que nous qui sommes habitués à être tout le temps dans le zapping, à dire ah mais comment c'est pas résolu, etc. Il faut aussi en tant que citoyen être éduqué à ce temps long de mouvement très profond. L'autre chose aussi que je voudrais souligner, je travaille en ce moment notamment sur ce qui s'est passé aux Philippines, qui est très intéressant ces derniers temps. Pourquoi ? Parce que vous avez une pénétration, une attaque d'un groupe djihadiste pour faire simple, et vous avez le président Duterte. Alors vous me direz, c'est pas un modèle de mesure, de pertinence, de recul, etc. Mais qui, il y a 6 mois, dit, c'est pas très grave, on va liquider cette attaque en 3 semaines, 15 jours. Ils ont mis presque 6 mois. Pourquoi ? Parce que vous apercevez que le virus djihado-salafiste, il est mutant, il s'adapte, il se marie, il se conjugue avec d'autres formes. Sur les Philippines, très rapidement, vous avez en fait la coagulation de 3 choses. Un clan local implanté mi-mafieux, mi-patriarcal dans la zone. Un groupe terroriste local, Abou Sayed, qui est très ancien, qui a une histoire. Et puis vous avez des formateurs, des combattants étrangers qui viennent apporter le benchmarking, le savoir-faire acquis en Afghanistan, en Irak, etc. Et quand vous mariez ces trois éléments-là, au lieu de mettre 15 jours pour les réduire, vous mettez 5 mois, 6 mois, et Duterte est obligé d'appeler les Américains en secours, notamment pour le renseignement et peut-être pour les forces spéciales, pour arriver à résoudre simplement cette métastase. Ça montre la complexité et cette porosité entre mafia, contrôle de zone, plus terrorisme, c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment.
Et ça veut dire aussi, Abdelhassim Al-Ifrawi, qu'on n'a pas besoin de chef, en fait. On n'a plus besoin de chef. Il n'y a pas besoin d'une espèce de figure tutélaire dans un mouvement comme celui-là.
Si, il y a toujours de nouveaux leaders charismatiques, mais il ne manque pas de leaders. C'est-à-dire, il y a... Ça, c'est par exemple un des grands dangers par rapport à ceux qui reviennent en France, de la zone irako-syrienne, de combattants qui ont acquis un certain charisme parce qu'ils ont combattu. Donc il y a toujours de nouveaux leaders qui peuvent se cristalliser. Mais peut-être une dernière remarque.
Allez-y.
On habite aussi, on vit aussi dans un monde avec une certaine incertitude géopolitique. Les événements actuels en Arabie Saoudite...
Bah, j'allais vous poser la question, vous voyez, du jeu que peut jouer Riyad dans cette nébuleuse-là.
Riyad...
L'astuce révélateur.
Non, mais est-ce que cette démarche du prince, qui en fait l'aura de l'Arabie Saoudite, s'épurge pour
prendre
le pouvoir? Je pense
qu'il
est sincère, mais si il n'arrive pas à stabiliser l'Arabie Saoudite, et au contraire, l'Arabie Saoudite, parce que il y avait trop d'arrestations, parce que la population est mécontente, sombre dans le chaos. Là, les conséquences sont immérables.
Est-ce que les anciens de Daesh pourraient s'y retrouver? Parce qu'après tout, l'ennemi commun s'appelle l'Iran, donc à la fin, on devient beaucoup moins regardant.
Hein. Non, mais le nouvel ennemi peut aussi appeler à la famille régnante de l'Arabie Saoudite à nouveau.
Oui, et il faut se souvenir que l'Arabie Saoudite, qui au départ de l'émergence de Daesh, jouait un rôle ambigu. Alors quand on parle d'Arabie Saoudite, c'est compliqué parce que c'est pas un État, ce sont des familles.
Puis c'était pas l'État, c'était les familles.
Ouais. Par des fonds caritatifs, etc. Mais toujours est-il qu'au début de l'émergence, de la réémergence de Daesh en Syrie, il y avait une certaine ambiguïté. L'ambiguïté a disparu quand le régime saoudien s'est rendu compte que sur Internet, les jeunes saoudiens, ils adhéraient aux idéaux de Daesh en se disant, là on a une forme, une structure qui lave plus blanc que blanc, qui est encore plus radicale que nous, Riyad. Et finalement, c'est vrai que nous, protecteurs des lieux saints, la Mecque et Médine, nous sommes finalement impurs parce que nous accueillons les Américains. Daesh, c'est la vraie solution. Donc l'Arabie Saoudite, tout d'un coup, s'est dit, il faut changer de braquet.
L'Arabie Saoudite, le pays vraiment à surveiller en ce moment, Abdelhassem El-Difraoui. Merci mille fois, Pierre Servent. Je vous remercie également. Je rappelle que votre dernier ouvrage s'appelle Les présidents et la guerre et c'est publié chez Robert Laffont. Voilà, c'est dit.
France Inter, Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde est au Qatar. Comment travaille-t-on à Al Jazeera? Tiens, on va pas tout à fait quitter la région alors que les voisins réclament votre tête. On le verra avec Christian Chesneau. Le Brexit saison 2. Bonsoir à vous, Antoine Gignot.
Bonsoir.
Et Theresa May avait déjà beaucoup d'ennuis. La voilà qui doit faire aussi avec les gaffes de Boris Johnson.
Absolument. Le ministre des Affaires étrangères obligé de s'excuser en public. Et je vous ai fait la compile de ses plus grosses gaffes.
Eh ben, ce sera tout à l'heure. Donc, à 18h45, 18h55, Anthony Bélanger, il y a file d'attente aux portes du Québec.
Oui, en matière d'immigration, vous le savez, hein. Quand Donald Trump éternue, eh bien c'est le Canada qui s'enrhume.
Allez, I want you back, disent les Jackson 5. C'était en 69, dites-moi. Excellente année que cette année 69 où les Jackson 5 chantaient I Want You Back. Tiens, elle est revenue elle aussi, Florence Paracuellos. Power Hit Radio. Magic FM. Dès la revenue Florence avec vos histoires dénichées dans les recoins de l'actualité internationale. Nous partons pour le Venezuela qui en ce moment même est en train de jouer sa survie financière.
Le Venezuela qui fut le pays le plus riche d'Amérique latine avec son pétrole sombre économiquement depuis l'arrivée des chavistes au pouvoir en 99 et la baisse des cours du pétrole depuis 2014. Et le pays est donc maintenant au bord du gouffre à cause de sa dette. 150 milliards de dollars détenus par des créanciers. Le Venezuela est censé en rembourser une douzaine d'ici la fin 2018. Sauf qu'il n'a même plus 10 milliards dans ses caisses. Alors deux réunions cruciales ont lieu ce soir, l'une à Caracas, l'autre à New York avec des créanciers internationaux. Mais le Venezuela ne cédera rien, déclaration très claire du président Maduro dans son allocution télé hebdomadaire. Il pense que le Venezuela va se déclarer en défaut de paiement. Jamais. Jamais ça n'arrivera. Le Venezuela a toujours suivi une stratégie claire, renégocier et refinancer la dette. Voilà, pas question de dévier de cette ligne. Il faut trouver un moyen de négocier avec les créanciers qui n'ont pas tellement eu à se plaindre. Ces dernières années, le Venezuela les a payés, ce pays socialiste a préféré rembourser ses dettes plutôt que de subvenir aux besoins de sa population. Ce pays, qui importe tout sauf le pétrole, a rogné sur les produits de première nécessité et sur les médicaments. Les pénuries auraient fait perdre en moyenne 8,5 kg aux Vénézuéliens l'an dernier. Parce que si le Venezuela se fâche avec ses créanciers, si un défaut de paiement est déclaré, c'est la dernière vache à lait du pays qui sera saisie. La compagnie pétrolière Citgo, basée aux États-Unis avec ses raffineries et ses stations-service. Voilà pourquoi Maduro veut absolument renégocier sa dette. Ça n'est pas impossible avec la Chine et la Russie. Ça l'est du côté américain qui a décrété des sanctions contre Caracas et qui a placé le vice-président et principal négociateur du pays sur liste noire pour trafic de drogue. La situation est donc explosive. Crise financière, crise économique, crise sociale, crise politique. La sécurité du pays et de la région sont en jeu. D'ailleurs, Bruxelles a décrété ce matin un embargo sur les livraisons d'armes au Venezuela pendant que l'ONU réfléchit à une action international pour parer au chaos.
Allez Florence, vous nous emmenez maintenant en Pologne, pays vieillissant qui se fait du souci pour sa démographie.
38 millions de Polonais aujourd'hui. L'ONU, dans ses prévisions, n'en voit plus que 32 millions en 2050 et 21 à la fin du siècle. D'où ces incitations à la procréation. 118 euros d'allocation par mois et par enfant à partir du deuxième d'abord. C'est un quart du SMIC polonais. Le gouvernement conservateur et nationaliste a aussi commandé ce spot diffusé à la télé.
Kto jak kto, ale my króliki wiemy jak zadbać o liczne potomstwo.
Alors on est au ras des pâquerettes, Fabienne, et ce sont des lapins qui parlent. Personne ne sait mieux que nous comment prendre soin de sa progéniture. Nous bougeons beaucoup, nous mangeons bien, nous ne buvons pas d'alcool. Donc si tu veux devenir parent, suis notre exemple. Je sais de quoi je parle.
Si tu veux devenir lapin.
Mon papa a eu 63 enfants. Voilà, la grande classe, Fabienne. Les Polonais appelés à se comporter comme des lapins, encore heureux qu'on ne les voit pas se reproduire. 700 000 euros le spot tout de même. Et une polémique à la clé. Les journaux de tous bords ont trouvé ça d'un goût douteux. Le ministre de la Santé, un médecin qui ne donnerait pas la pilule du lendemain à une jeune fille violée et qui a coupé les financements de la fécondation in vitro, ose nous comparer à des lapins, a dit un éditorialiste d'un journal libéral. Je comprends les critiques, répond le ministre, mais il faut absolument susciter un débat sur la natalité. Bah voilà, là, je crois que c'est fait.
Ouais. Allez, un petit tour par Budapest. Et là aussi, c'est étonnant, Florent.
Si vous vous baladez dans les rues piétonnes de la ville, vous vous demanderez sans doute qui est ce barbu costaud qui porte une selle de cheval sur l'épaule. Sa statue a été inaugurée ce week-end. Eh bien, c'est Bud Spencer, acteur italien de son état, donc rien à voir avec la Hongrie. Bud Spencer,
Terence Hill, bien
oui,
sûr,
vous
toute notre enfance, évidemment.
Les western spaghetti des années 70, on l'appelle Trinita, entre autres, et sa bande-son inimitable. Bah oui, ça cognait.
Il y a beaucoup de bourre-pif. Ouais.
Et il se trouve, figurez-vous, que les Hongrois ont été abreuvés de ces films à l'époque. Ça faisait partie des rares productions occidentales qui passaient la censure communiste. Et ils ont adoré Bud Spencer. Un parc porte déjà son nom à Budapest. Ces films, c'était un bout de liberté qui nous était accessible, dit un commerçant interrogé par l'AFP lors de l'inauguration. Et Bud Spencer en hongrois, ça donnait ça.
Ben, on n'a pas envie de s'en approcher.
Il était très en colère, là. Voilà.
Pas du tout. Allez, Florence Paracuelos, merci. Et vous revenez demain dans Un jour dans le monde.
France Inter, le 18-20.
C'est au Qatar que je vous emmène. Au Qatar, siège de la chaîne Al Jazeera, dont elle ne vous a pas échappé, qu'elle était coincée dans son petit territoire, le Qatar, à côté, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'énorme géographique et aussi influente Arabie Saoudite. Il ne vous a pas échappé non plus que depuis plusieurs mois, les relations diplomatiques sont rompues entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, plus les Émirats Arabes Unis, plus le Bahreïn, plus l'Égypte, plus le Yémen. Bonsoir Christian Chéneau.
Bonsoir Fabienne.
Spécialiste de la région pour France Inter. C'est bon, j'ai oublié personne. Tout ça a sorti d'un embargo
qui ne sera levé que si la chaîne Al Jazeera ferme ses portes. Ça, c'est l'ultimatum, en gros, qui a été posé par l'Arabie Saoudite. Et ce qu'on a envie de voir ensemble, Christian, ce soir, c'est comment on vit, quand on est Al Jazeera, avec cette menace et avec ses voisins, quand on est coincé dans ce si petit bout d'État. Comment ça marche?
Les Qatariens sont un peu gênés parce que, évidemment, que les grands voisins fassent un blocus. Alors, c'est un blocus aérien terrestre. Alors, sur place, les gens, j'allais dire, résistent, essaient de faire comme ils peuvent. Et Al Jazeera continue d'émettre et justement met un point d'honneur à continuer ses activités, à diffuser de l'information. Mais c'est vrai que l'ambiance est un petit peu tristoune parce que les gens sentent qu'il y a quand même une énorme pression sur la chaîne.
Alors, on va écouter un monsieur qui s'appelle Mohamed Krishen. Il faut nous dire qui c'est. C'est un journaliste et si on veut comparer, c'est la Christiane Annanpour de CNN. C'est une sorte de Bernard Guetta, un peu plus... plus politisé, en fait.
Oui, ou un poivre d'Arvor. C'est-à-dire que Mohamed Krishen, c'est un Tunisien qui vient de la BBC arabe. Et il fait partie de, j'allais dire, l'équipe historique d'Al Jazeera. Le premier noyau de journalistes qui a créé Al Jazeera l'été 96. Et donc, c'est une vedette là-bas sur place. Et donc, je lui ai posé la question, fermer la chaîne, ça veut dire quoi? Et qu'est-ce que ça poserait comme problème? Et il nous répond.
C'est comme on assiste à un litige franco-allemand ou franco-belge et les Belges demandent la fermeture de France 2 au TF1. Nous ne sommes pas une chaîne sans reproche. Nous ne sommes pas une chaîne qui est parfaite. Mais si jamais on est prêt à recevoir des critiques, on reçoit ça des gens professionnels, de nos collègues. Mais recevoir des demandes de fermeture de la part des gens qui ne sont ni professionnels, ni avec tous les respects, une référence dans le domaine de la liberté de la presse et du respect des droits de l'homme, c'est quelque chose de vraiment indigne de n'importe quel État qui se respecte.
Mais vous avez le sentiment que cette crise va continuer sur Al Jazeera, la pression va être maintenue?
Depuis 20 ans, on assiste à une marée de protestations. Nos bureaux en Arabie Saoudite, en Jordanie, en Émirats Arabes Unis, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, c'est toujours up and down. Fermer les bureaux d'Al Jazeera, permettre l'ouverture des bureaux, donc c'était toujours un bras de fer entre les régimes et cette chaîne. Cette fois-ci, on assiste à quelque chose de nouveau, c'est une coalition entre plusieurs États, quatre États, qui demandent la fermeture de cette chaîne. Et je pense que les pressions vont continuer, mais loin de faire le héros, on va continuer notre travail. La fermeture, c'est tout à fait impossible, à mon avis. Paris ne peut jamais être Paris s'il n'y a pas de Tour Eiffel. Qatar ne peut jamais être Qatar sans la chaîne Al Jazeera.
Voilà, on retiendra l'image de la Tour Eiffel tout de même de Mohamed Krishen. Moi, j'ai retenu ce qu'il dit au début, Christian Cheneau. Nous ne sommes pas une chaîne sans reproche. Il pense à quoi? Qu'est-ce qu'on lui reproche à Al Jazeera?
Il y a eu pas mal de choses. On se souvient dans les années 2000, les interviews avec Ben Laden. Mmh. Récemment, il y a eu des interviews avec Mohamed El-Jouani, qui est quand même le chef de la filiale d'Al-Qaïda en Syrie. Donc, il y a quand même des gens un peu sulfureux qui ont été invités sur la chaîne. Et puis aussi, pendant les printemps arabes, il y a eu des dérapages. C'est-à-dire que la chaîne est devenue militante avec un parti pris, alors qu'avant, c'était vraiment l'opinion des uns et des autres. Là, la chaîne a collé à l'agenda diplomatique du Qatar et donc elle a perdu, j'allais dire, son indépendance et ce pourquoi elle était regardée. C'est-à-dire que, encore une fois, elle donnait la parole à tout le monde. Et là, soudainement, elle a soutenu des gens, des révolutionnaires, des rebelles, et parfois, comme je disais tout à l'heure, des gens radicaux, voire extrémistes, voire terroristes, qui faisaient passer parfois pour des combattants de la liberté. Donc ça, évidemment, ça pose problème et en interne, ils le savent bien.
Donc, perdu de son indépendance, perdu de son influence, du coup, aussi ou pas, est-ce qu'il y a beaucoup moins de gens qui regardent?
Oui, il y a moins de gens parce que Al Jazeera avait un monopole. Dans les années 90-2000, c'était Al Jazeera et c'est tout. Je me souviens de l'heure de gloire pendant la guerre en Irak, les intifadas. Et puis, il y a eu les printemps arabes. Donc là, évidemment, la chaîne était regardée par tout le monde. Mais la conséquence des printemps arabes, c'est qu'on a créé des chaînes locales. En Tunisie, en Égypte, un peu partout, donc des chaînes d'information. Les Tunisiens voulaient regarder des chaînes tunisiennes, des chaînes privées. Et puis, il y a eu une concurrence internationale avec les grandes chaînes, la BBC, CNN, France 24 ou encore Russia Today, qui ont créé des services en arabe. Donc, les gens, évidemment, ont une offre beaucoup plus large. Et donc, Al Jazeera, évidemment, est concurrencé.
J'ai une toute dernière question rapide, Christian Cheneau. Est-ce que vous savez aujourd'hui comment on traite en ce moment sur Al Jazeera, donc au Qatar, le coup de force du du prince en Arabie Saoudite sur sa garde rapprochée et même l'affaire Hariri en fait. Comment ça se traite ça?
Un journaliste me disait que finalement c'est pas béni. Hein. On couvre dans le détail parce que évidemment ça permet d'éloigner les projecteurs du Qatar vers l'Arabie Saoudite. On a même vu récemment le discours de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, qui a été retransmis en direct, ce qui n'avait pas été fait depuis longtemps. Donc les Qatariens évidemment se réjouissent un petit peu des malheurs ou en tout cas des développements à côté. Ils se disent finalement on est moins dans l'œil du cyclone.
Allez, merci beaucoup Christian Chesneau et Al Jazeera dans Un jour dans le monde sur France Inter. On file en Grande-Bretagne.
France Inter.
The United Kingdom is leaving the European Union.
Fabienne Saint-Es.
This is an historic moment.
Un jour dans le monde.
L'actualité en série le lundi, c'est le Brexit, saison 2, épisode 10. Bonsoir à vous Antoine Gignot.
Bonsoir.
Antoine, on le disait tout à l'heure, dire que les négociations se passent mal, ça c'est un euphémisme. Theresa May elle-même est peut-être au bord de la sortie, en tout cas ça va pas très fort. Et voilà qu'elle a désormais à composer avec son très volubile, incontrôlable chef de la diplomatie, Boris Johnson, qui est aussi le roi des gaffes. Après le départ du ministre de la Défense, après le départ du secrétaire d'État au développement international, est-ce que c'est lui le suivant, précisément à cause de ses bourdes à répétition ou pas?
C'est possible. En tout cas, il vient d'être obligé de s'excuser publiquement. C'était cet après-midi parce que sa dernière gaffe risque de coûter 10 ans de prison à une Britannique qui est détenue en Iran. Elle s'appelle Nazanin Zaghari Ratcliffe. Elle a été arrêtée en avril 2016 alors qu'elle était en vacances à Téhéran. Elle est accusée d'avoir voulu organiser un complot contre le gouvernement. Elle dit qu'elle est innocente. Mais il y a quelques jours, Boris Johnson, en évoquant l'affaire, a déclaré publiquement que la jeune femme était allée sur place pour former des journalistes iraniens. C'était faux, mais au lieu de 5 ans, Nazanin Zaghari Ratcliffe risque maintenant de passer 10 ans en prison en Iran.
Voilà, bravo. Donc du coup, quelle réaction à Westminster?
Agitation, scandale, colère, il y en a pour tous les goûts. Colère parmi les députés de l'opposition surtout. J'ai gardé un extrait des débats à l'Assemblée pour vous donner une idée de l'ambiance. Alors c'est Emily Sandberry qui parle à la Chambre des communes. Elle est députée chargée des dossiers d'affaires étrangères chez les travaillistes. Et voilà ce qu'elle dit. Combien de fois faut-il encore que ça se produise? Combien de fois le ministre des Affaires étrangères doit-il encore insulter nos partenaires internationaux? Combien de fois va-t-il endommager nos relations diplomatiques? Ils mettent en danger maintenant les intérêts des citoyens britanniques. Et elle ajoute, il faut que la Première ministre le dise. Maintenant, trop, c'est trop. C'est aussi d'ailleurs ce que dit Jeremy Corbyn, le chef de file des travaillistes. Il réclame lui aussi la tête de Boris Johnson. Et puis il y a évidemment certains conservateurs dans les coulisses qui eux aussi seraient tout prêts à se débarrasser de ce partisan du Brexit.
Alors quand même, Antoine, comment on a pu en arriver là?
C'est surtout l'accumulation, les erreurs, les dérapages, les bourdes qui finit par peser lourd dans le sac de Boris Johnson. J'ai envie de vous montrer un peu l'affiche qu'on trouve dans plusieurs magasins que je viens de décrocher et d'accrocher au mur ici. Je vous la posterai sur Twitter. Mm-hmm. On y voit le visage de Boris Johnson, les yeux écarquillés, du rouge à lèvres. Ah. Sur la tête, Boris Johnson qui est aussi caricaturé dans plusieurs journaux avec des oreilles d'âne. Retour en arrière sur les plus grosses gaffes du ministre. Par quoi on commence?
Ah ben, je sais pas, par la France.
Allez, une phrase sur François Hollande. C'était au début de l'année dernière. À l'époque, François Hollande vient tout juste d'expliquer qu'avec le Brexit, il n'y aura pas de libre circulation des marchandises, il n'y a pas de libre circulation des personnes. Et dans la foulée, Boris Johnson compare le président de la République française à un officier allemand de la Seconde Guerre mondiale, un peu comme dans la série Papa Schultz. Et il l'accuse de vouloir infliger des punitions à ceux qui cherchent à s'échapper de l'Union européenne. Il y a aussi la Libye, une phrase sur la reconstruction de Sirte. Boris Johnson parlait des investisseurs britanniques qui veulent investir pour reconstruire la ville avec cette phrase: tout ce qu'il y a à faire pour transformer Sirte en un nouveau Dubaï, c'est d'enlever les cadavres.
Allez, Antoine, il va falloir changer vos références parce que Papa Schultz, moi aussi, je sais ce que c'est, mais c'est parce que je suis extrêmement vieille. Il s'est aussi illustré, Antoine, ce sera la dernière question, pendant les voyages diplomatiques.
Absolument, avec d'abord ce poème colonial qui a été récité pendant une visite en Birmanie. Gros choc parmi les dignitaires religieux, c'était à l'intérieur d'un temple. Boris Johnson a cité Rudyard Kipling et en particulier un poème qui parlait du départ des soldats britanniques de la Birmanie. Gros choc, et puis dans la foulée, Boris Johnson s'est arrêté devant une statue sacrée en disant « c'est vraiment un très gros cochon d'Inde ». Là aussi, belle performance, il faut quand même préciser qu'il n'a pas attendu d'être ministre des Affaires étrangères pour collectionner les provocations, Boris Johnson. Son grand coup d'éclat diplomatique, c'était ce poème écrit lorsqu'il était maire de Londres pour dénoncer le manque de liberté d'expression en Turquie et dans lequel il racontait avec des rimes les rapports sexuels entre Recep Tayyip Erdogan, le dirigeant turc, et une chèvre.
Ouais, merci beaucoup, ben dites-moi. Antoine Gignot en direct de Londres pour le Brexit saison 2. Voici Holly Cook, Angel Fire sur France Inter. Allez, extrait du deuxième album de Holly Cook, ça s'appelle Angel Fire sur France Inter.
France Inter. Un jour dans le monde.
Le rendez-vous du lundi avec Alexandra Kuhn, ce qui buzz, ce qui fait l'actu, ce qui fait lever un sourcil aussi dans les médias de la planète. Bonsoir Alexandra.
Bonsoir Fabienne.
Et on commence comme tous les lundis par le fake de la semaine.
Attention, attention, à compter de mercredi Fabienne, notre planète va connaître 15 jours de noir total. Voilà ce qu'affirme un message qui tourne sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. Souvent, il est même accompagné de cela.
NASA has confirmed that the Earth will experience 15 days of total darkness.
Une voix ou une vidéo ou une voix pas synthétique du tout,
non, hein, du tout,
dit du tout.
Et on sent pas les coupes, en plus.
La NASA a confirmé l'info qu'un tel événement ne s'est pas produit depuis au moins 1 million d'années. Le 15 novembre à 3h GMT, hop, plus de soleil, c'est très précis. Et ce, jusqu'au 29 novembre, 14h15. Ne souriez pas, cette vidéo a été vue quasiment 190 000 fois sur YouTube. Évidemment, c'est du grand n'importe quoi, l'agence spatiale américaine n'a jamais confirmé un truc pareil. Pire, le site Snopes nous apprend que cette fake news ressurgit régulièrement depuis 2012, année pour laquelle le calendrier Maya nous prévoyait l'apocalypse.
C'est toujours la faute des Mayas. Au Somaliland, regardez bien où c'est le Somaliland, vous allez nous le dire, parce que moi, personnellement, honnêtement, il a fallu que j'aille regarder sur une carte, au-dessus de la Somalie, bien sûr. On vote aujourd'hui pour élire un nouveau président, et on a une solution drastique, justement, contre les fake news dont on parlait à l'instant.
Et ben, cette solution est toute simple, fermer les réseaux sociaux dans cette petite république autoproclamée qui se trouve effectivement au nord de la Somalie et qui n'est pas reconnue par la communauté internationale. Depuis minuit, tout est coupé. Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber, Instagram. Plus rien ne fonctionne et ce sera comme ça jusqu'à la publication officielle des résultats de l'élection. Une décision vivement critiquée par de nombreuses organisations dont Human Rights Watch qui a fait remarquer aux autorités du Somaliland que si elles s'inquiétaient de la possible diffusion de fausses informations ou d'agitation sur les réseaux sociaux, il y avait plus simple, propager des informations précises, par exemple, et des messages de prévention des violences.
Alexandra, 3 peines d'emprisonnement incompressibles à vie, c'est ce qu'encourent les journalistes turcs Mehmet et Ahmet Altan, dont le procès a repris aujourd'hui à Istanbul.
Grande figure du journalisme en Turquie, les deux frères sont accusés, tenez-vous bien, d'avoir envoyé des messages subliminaux annonçant un coup d'État lors d'une interview télé diffusée la veille du putsch raté en juillet 2015. Une situation surréaliste, non, une situation totalement banale, d'une banalité affolante en ce moment en Turquie, où 160 journalistes sont incarcérés. Très souvent, ils sont aussi accusés de terrorisme et leurs procès sont absurdes. Écoutez ce qu'en dit Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières.
Moi, j'ai assisté à des scènes sidérantes où pendant des journées entières, on posait des questions sans intérêt parce que les magistrats faisaient semblant. Il y a 15 jours, en une semaine, 50 journalistes ont été traduits devant la justice. On imagine ce qu'est la chape de plomb que veut poser le pouvoir pour obtenir des journalistes l'autocensure. Et malgré tout, il y en a encore qui résistent, qui arrivent à faire vivre une presse. Alors c'est plus un paysage pluraliste comme ça l'était il y a quelques années, mais il y a encore quelques journaux qui résistent et nous devons les sauver, parce que les sauver, c'est sauver les libertés en Turquie et c'est sauver plus largement le droit des citoyens partout à connaître ce qui s'y passe.
Et pour soutenir les journalistes turcs emprisonnés, Reporters sans frontières vient de lancer une opération de parrainage par des personnalités de médias français dont vous faites partie, Fabienne.
C'est vrai, moi je marraine, je sais pas comment on dit, une jeune femme en tout cas qui a 28 ans seulement, qui s'appelle Zehra Dogan, qui est emprisonnée pour 2 ans, 9 mois, 22 jours.
Et une pétition a été mise en ligne par Reporters sans frontières et vous pouvez aussi soutenir cela en hashtagant libérez-les tous.
Voilà, merci pour eux. Au Liban, bon, dernière chose qui fait le buzz, Alexandra, c'est l'interview télévisée forcément de Saad Hariri, c'était hier soir.
Mubasharatan min al-Riyad, masal khair mushahedin al-kiram, mubasharatan min manzil al-Ra'is Saad al-Hariri, masal khair tout al-Ra'is.
Première interview, 8 jours après la démission surprise du Premier ministre. Un entretien qui s'est fait en direct de Riyad face à Paula Yacoubian, présentatrice star de la chaîne libanaise Future TV, propriété de Saad Hariri. 90 minutes qui n'ont fait que renforcer ce que pense la majorité des Libanais depuis 8 jours. Que leur Premier ministre n'est pas libre de ses mouvements en Arabie Saoudite. Hashtag libérer mon Premier ministre. Hashtag Saad prisonnier. Hashtag nous n'abandonnons pas nos otages dans les prisons. Le slogan du Hezbollah. Tous ces mots-clés ont été partagés des dizaines de milliers de fois sur Twitter. Ça, malgré ses propos hésitants, en tout cas, et sa mine déconfite, eh bien Saad Hariri a assuré hier soir qu'il pourrait être de retour au Liban d'ici 2 ou 3 jours.
Alexandra Hakoun dans Un jour dans le monde sur France Inter. Merci beaucoup. 18h57, l'édito d'Anthony Bélanger. Bonsoir Anthony.
Bonsoir Fabienne, bonsoir.
Avec
à
un
tous.
Canada, Anthony, qui se prépare à une nouvelle arrivée de migrants et de réfugiés à ses postes frontières avec les États-Unis.
Alors, vous avez raison de souligner, le Canada se prépare, c'est-à-dire que rien pour le moment ne s'est produit, c'est même l'inverse qui se passe pour tout dire. La vague de migrants et de réfugiés, vous savez, qui cet été avait afflué au Canada en provenance des États-Unis, eh bien cette vague s'est tarie. Alors, je rappelle l'affaire, en menaçant de supprimer les autorisations de séjour temporaires, protégeant notamment plusieurs dizaines de milliers de Haïtiens installés aux États-Unis, eh bien Donald Trump avait suscité une vague de migration vers le Canada. Des milliers de réfugiés ou de migrants ont passé à pied la frontière entre les deux pays. Au pic de l'été, ce sont 250 personnes qui, valises à la main et enfants dans les bras, eh bien affluaient à cette frontière, très peu gardée. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une cinquantaine par jour à tenter l'aventure. Et lorsque l'on parle de vague, eh bien il faut aussi proportion garder. En tout, 15 000 personnes ont traversé cette frontière en 2017, l'équivalent de la population de Brie-sur-Marne, pour vous donner une idée.
Mais alors Anthony, si le phénomène est en train de se tarir, à quoi les Canadiens se prépare.
Ben d'abord, la mini-vague de cet été a surpris tout le monde. Elle a tout de même obligé en peu de temps à ouvrir des structures d'accueil, comme le stade de Montréal, transformé en quelques semaines en centre de réfugiés. Aujourd'hui, toutes ces structures d'urgence ont été fermées, mais ça n'empêche pas l'État canadien de prendre ses précautions, parce qu'ils en sont certains, les Canadiens, une autre vague du même genre est possible, voire inévitable. Se préparer, c'est donc une façon rationnelle de prévenir à la fois le problème et puis la population canadienne, qui ne sera donc ni surprise, ni trop inquiète. C'est la bonne politique. Ensuite, pourquoi le Canada est-il certain que cette vague se reproduira? Eh bien, tout simplement parce que les États-Unis ont déjà prévenu qu'ils recommenceraient à retirer à des populations entières leur permis de séjour temporaire. Ça concerne plus de 300 000 centra-américains et haïtiens installés aux États-Unis et souvent depuis près de 20 ans.
En tout cas, ça veut dire qu'on peut avoir un permis de séjour temporaire depuis 20 ans.
Et ça, ce sont les délices des administrations américaines qui, en matière de bizarrerie, n'ont rien à envier aux nôtres. En fait, en 99, suite à l'ouragan Mitch qui a dévasté l'Amérique centrale, eh bien, des milliers de migrants ont obtenu un permis de séjour provisoire. Un permis de séjour qui a depuis été systématiquement renouvelé année après année. Sauf que la semaine dernière, ce statut a été retiré à 2500 Nicaraguayens et à compter de janvier 2019. Le temps de se retourner un peu en somme. Mais ce n'est qu'un début. Le séjour provisoire de 57 000 Hondurans rien a certes été reconduit jusqu'en juillet 2018, mais ensuite, mystère, même incertitude pour les Haïtiens et pas mal d'autres centra-américains. Ce sont donc en tout 300 000 migrants réfugiés qui devraient devoir quitter les États-Unis.
Alors rapidement, Anthony, pour finir, le Canada, est-ce une bonne solution pour eux ou pas?
Ah oui, clairement oui. Le Canada communique en permanence sur sa politique d'accueil généreuse. Aujourd'hui, les minorités visibles y représentent près du quart de la population et à l'horizon 2030, elles seront près du tiers des Canadiens.
Merci beaucoup, Anthony Bélanger, dans Un jour dans le monde, sur France Inter.